Alors, Étienne Daho, adolescent, j'ai envie de dire que vous êtes entré en musique comme on entre en religion. D'abord avec les albums du Velvet Underground que vous vous prêtiez entre amis, un petit peu comme on confie des trésors. Puis avec les mots de Lou Reed. À 15 ans seulement, à peine, hein, 14 ans et demi, fasciné par Londres, eh bien, vous alliez y travailler comme groom dans un hôtel. Et avec l'argent poché, vous achetiez des disques introuvables en France. Mais je voudrais savoir, c'était facile à l'époque pour un mineur venu de France, c'était facile de se fondre dans la vie londonienne et puis de trouver comme ça des petits boulots ?
Alors en fait, ça a été à Manchester.
À Manchester.
J'avais menti sur mon âge, j'avais envoyé, parce que je vivais avec ma mère qui avait assez peu de moyens, et donc pour m'acheter des mobilettes ou je sais pas, des disques, enfin voilà, je travaillais tous les étés. Et donc j'avais écrit un petit peu partout, et c'est la seule réponse que j'avais eue. Et donc je suis parti à Manchester, j'ai pris le ferry.
Et vous aviez raconté que vous aviez 18 ans ?
Oui.
Et ils vous ont cru.
Et quand je suis arrivé, ils m'ont gardé. Donc ils m'ont un peu rétrogradé par rapport à la place qu'ils auraient pu me donner. Mais donc ils m'ont mis une blouse et je portais les petits déjeuners. Enfin, il y avait toujours quelque chose. Et ça a été vraiment un moment pour moi de magie et de liberté. Parce que j'ai vraiment découvert la vie, beaucoup de ses aspects, voilà. À ce moment-là, et en accéléré.
La vie en accéléré, et puis toujours, bien sûr, la musique, parce que, bon, en Angleterre, dans les années 70, on était plutôt sur le glam rock, vous avez découvert le reggae, et surtout l'émergence du mouvement punk. En fait, on était très très loin du disco, en Angleterre.
On était assez loin du disco, et bizarrement, le disco, j'ai apprécié le disco longtemps après. Alors après, bon, il y avait bien sûr les albums de Grace Jones ou d'Amanda Lear, parce qu'il y avait cette espèce de soufre autour de ce disco-là, en tout cas. Et puis aussi, bon, évidemment, Chic, c'est tellement Chic, c'est tellement fabuleux.
C'est tellement parfait.
C'est tellement extraordinaire.
Mais on était loin du disco dans les années 70 en Angleterre, mais on était aussi assez loin de la pop. On était beaucoup plus rock, on était loin de la pop qui, elle, allait devenir votre étendard. C'est curieux, parce que le phénomène Beatles commençait comme ça à reposer comme un soufflet qui descend, non ?
Ah oui, oui, oui. Enfin, le mouvement punk a été un raz-de-marée. Ouais. C'est-à-dire que plein de jeunes gens qui ne savaient ni chanter ni jouer prenaient des guitares, montaient sur scène. Et c'était l'envie de renverser toute la génération précédente qui portait barbe, cheveux longs et sabots.
Et vous aussi, vous aviez cette envie ?
Oui, bien sûr. J'ai été emporté. Parce qu'on avait l'impression de participer à quelque chose. Et puis, c'était aussi... On parlait de No Future, mais en même temps, c'était un moment assez romantique. Il y a eu une envie de libération. Et puis, on avait la sensation que nos aînés s'étaient gourés, quoi. Surtout.
On a toujours la sensation que les aînés sont gourés. Alors, de retour en France, bon, vous êtes lié d'amitié avec Hervé Bordier, qui sera le futur créateur des Transmusicales de Rennes. Déjà à l'époque, il organisait des concerts. Et voilà que vous vient une idée, Étienne Daho. Organisez-vous aussi un concert pour faire venir à Rennes le groupe punk rock français, les Stinky Toys, que vous adoriez, le groupe donc avec Elie Medeiros et Jacques Naud. Vous vous occupez de tout. C'est à la fois un triomphe et un cataclysme, n'est-ce pas ? Mais une amitié éternelle va naître de tout
ah,
ça.
Ah oui, vraiment. Ça, c'est les intuitions. Parce que je n'étais pas du tout organisateur de concert. J'ai vraiment organisé ce concert parce que je voulais vraiment les voir.
Comme un fan.
Comme un fan, bien sûr. Je regardais tous les magazines d'époque, Rock and Folk, Best, tout ça. Il y avait des photos d'eux. Je les trouvais sublimes, tellement stylés. Et donc, évidemment, le concert a été une cata parce que, en fait, tous les gens sont rentrés en force. Donc
sans payer.
Sans payer, évidemment. Et puis, j'ai vu tous ces gens-là passer. Je me suis dit, mais en fait, je m'en fous. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de les voir. Donc, je me suis mis au premier rang, j'ai regardé le concert et j'ai passé une très bonne soirée. Les problèmes sont arrivés après.
Oui, c'est ça. Il paraît que... Mais vous avez eu des dettes assez longtemps,
n'est-ce
pas ?
Très longtemps, très longtemps.
À cause de ce concert ?
Ah oui, pendant 4-5 ans, ouais.
Alors, on était vraiment dans la mouvance punk, parce que vous allez nous dire si c'est vrai. Il paraît qu'à l'époque, Jacques Naud demandait à être payé par les maisons de disques plutôt qu'en royalties sonnantes et trébuchantes. Lui, il voulait être payé en bière.
En Valstar, à l'époque, oui, c'est
non.
Vrai. Ouais. Mais aussi, ça fait partie de la légende.
Bon, en tout cas, ce sont
toujours
eux.
Toujours est-il qu'en fait, il y a eu une tempête de neige après le concert.
Oui.
Ils n'ont pas pu rentrer à Paris.
Oui.
Et donc, j'avais pas les moyens de leur payer un hôtel. Donc, ils sont tous venus chez moi. Il y avait un misérable radiateur qu'on m'avait prêté parce qu'il faisait moins 12. Et on a parlé toute la nuit. Et vraiment, j'ai découvert une famille d'esprit, quoi. Et c'est la première fois que j'ai formulé... que j'allais faire de la musique.
Vous avez sorti certains de vos textes, c'est ça ?
Non, l'aube... pas encore. Je leur ai dit, voilà, j'écris des chansons.
Ouais.
Je les ai envoyées à Ellie. Et elle m'a dit, c'est bien, tu peux le faire. Enfin, c'est-à-dire que c'est comme si... Il m'avait soufflé dans le dos. Et puis aussi, surtout, c'était des gens qui, contrairement à tous les gens que je connaissais qui étaient assez snobs et assez rigides, eux disaient aussi, comme moi, aimer Françoise Hardy, les Beach Boys et des choses très pointues.
Ça donc nous... on pouvait être punk et adorer Françoise Hardy.
Ah oui, voilà.
Ils ont toujours été là, en fait, Ellie et Jacquenot.
Ils ont toujours été là. Et puis quand j'ai fait mon premier album, oui. Jacquenot l'a produit, oui. Ellie a fait la pochette... Ils m'ont véritablement entouré, c'est vraiment des amis éternels.
Alors Étienne Dao, l'album qui vous a réellement fait naître devant le public, c'est La Note, produit en 84 par Franck Darcel de Marquis de Sade.
Oui, avec qui a été premier... très important, Franck voilà. a été quelqu'un qui m'a vraiment tenu la main au tout début. Il a arrangé mes premières maquettes et il a réalisé jusqu'à Tomber pour la France.
Oui.
La plupart des tubes que j'ai eus.
Et alors le tout premier, bien sûr... Le tout premier gigantesque tube, c'est Weekend à Rome, qui longtemps vous a assimilé à l'idée d'une pop légère et sucrée. Alors que les tubes qui se sont succédés étaient souvent traversés plutôt par une mélancolie fiévreuse. Cette confusion, elle a existé parce que votre musique reste hédoniste, même quand vos paroles sont graves, c'est ça? Et que les gens veulent plus retenir les refrains et chantonner plutôt que voir ce qui se cache derrière les mots?
Alors, curieusement, enfin, c'est pas ma meilleure chanson et c'est pas celle qui a le mieux marché. Mais c'est celle qui encapsule une légèreté. Il y avait aussi cette oui. pochette de Pierre et Gilles pour illustrer cet album avec la marinière et le perroquet sur l'épaule, qui est restée une image qui a fait le tour du monde, vraiment qui me symbolise, enfin qui symbolise vraiment mon âme assez, assez adolescente même de l'époque. ils ont capturé plus. Je les ai vus hier soir justement et je leur ai dit qu'en fait, plus que. Mon physique, ils ont capturé vraiment la personne que j'étais à l'époque, une espèce oui. de candeur. Oui. Je faisais ça vraiment. Et je pense que cette chanson, Weekend à Rome, est une chanson qui, avec le temps, finit par être me représenter et appréciée par beaucoup de gens parce que elle est absolument légère. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, j'ai la tentation, ou même c'est un peu ma spécialité, de faire des textes graves avec des musiques légères et l'inverse.
Voilà.
Et là, tout est léger. Quoi. Donc il y a une espèce de chose. Voilà, c'est léger. Se glisse dans une espèce de bulle de légèreté.
Promesse de bonheur.
Voilà, c'est ça.
Et puis il y a votre voix, Étienne Dao. Alors cette façon d'exprimer avec un détachement apparent, et puis dans le souffle, ce qu'ont toujours fait d'ailleurs Lou Reed et Leonard Cohen, toutes ces choses sur lesquelles les autres s'époumonnent. Vous appelez ça l'absence de cosmétique, la façon de chanter d'une manière si naturelle. Vous dites même que parfois ce sont comme des cris en douceur, n'est-ce pas?
Exactement, oui. Mais je pense que quand j'écoute mes toutes premières maquettes, vraiment guitare et voix, parce qu'on me les a confiées il n'y a pas longtemps, que j'ai enregistrées avec le photographe Richard Dumas, qui à l'époque était guitariste, j'ai la même voix, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai chanté comme je parlais,
ouais.
et ça m'arrangeait aussi d'avoir des idoles vocales masculines comme Chet Baker.
Alors, vous savez que grâce à vous, j'ai réécouté, en préparant cette émission, j'ai réécouté Chet Baker hier, et j'ai compris. Effectivement.
Et les chanteurs brésiliens aussi.
Voilà.
Caetano Veloso, João Gilberto, tous ces gens-là, ça a été une grande inspiration pour moi. Parce que je trouvais qu'avec la voix que j'avais, qui était un peu singulière, je pouvais faire passer exactement tout ce que j'avais à dire. Et ça pouvait être un bémol, ou ça pouvait
être... C'est une voix qui dit plutôt qu'une voix qui chante.
Et cette voix a plutôt été mon amie qu'autre chose. Même si elle a été évidemment abondamment critiquée.
Mais vous savez ce que disait Cocteau, justement, il faut les travailler, toutes ces choses qui sont critiquées parce qu'elles sont tellement vous. Alors, est-ce que vous partez toujours en voyage pour écrire un album? Vous avez besoin de couper les ponts?
Mm-hmm, oui.
Toujours?
J'ai besoin de partir dans un lieu qui me permette d'être entièrement dédié au projet que je suis en train de faire. Et pas être dans un quotidien à Paris. Alors évidemment, ça me coupe... De ma maison, de la personne que j'aime, de mes amis.
Elle n'a pas le droit de venir, la personne que vous aimez, quand vous partez composer, non ?
C'est un moment assez solitaire, en fait.
Ouais.
Je ne sais pas si on peut véritablement partager ces moments-là. Enfin, peut-être que d'autres le font très bien, moi je ne sais pas.
Eden, qui ressort en coffret remasterisé, avec des bonus et des inédits, dès le 18 octobre. Eden a été imaginé sous quelle latitude, sous quel ciel, dans quelle atmosphère?
Alors c'est un disque que j'ai écrit après une période de tourmente, où j'ai vraiment fait un burn-out après un album qui a été un très très gros succès qui s'appelle Paris ailleurs. Et je me suis retrouvé dans une tourmente, une double tourmente personnelle. La mort de mon père, trop de tout, enfin trop d'excès. Et puis une rumeur me concernant, disant que j'étais mort du sida, etc. Bon, j'avais pas besoin de ça, je dois dire. Ça s'est additionné à un moment où j'essayais de me dépatouiller, d'essayer de voir comment j'allais pouvoir envisager la suite des événements. Et je suis parti à Londres.
Oui.
Et Londres m'a véritablement soigné parce que j'ai retrouvé l'anonymat. Je me suis un peu éloigné de certaines relations, on va dire toxiques.
Oui.
Et je me suis reconstruit véritablement. Et j'ai lu La Genèse à ce moment-là.
D'accord.
Et ça explique tout.
Et ça explique tout.
Éden,
et
voilà, les péchés capitaux.
Parce que j'allais justement vous poser cette question.
Oui.
Voilà.
Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je me suis dit, je vais faire un album sur la Genèse. Sur la mienne aussi, puisque j'avais la sensation de rentrer dans un autre moment de ma vie. Et cet album, c'était vraiment un acte 2. Après ces 10 années de folie, de ce qu'on appelait Daomania. Et je me suis posé la question aussi de savoir si c'était vraiment ce dont j'avais envie.
À ce point.
Parce que quand on est un jeune homme comme ça, et que tout d'un coup, on a cette espèce de cadeau fabuleux
de la gloire.
De la place qu'on vous accorde, surtout. Mmh. C'est à la fois très perturbant, parce que c'est un monstre qui arrive dans votre salon, et vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça?
Mais vous étiez prêt à prendre la fuite?
C'est-à-dire qu'en fait, faire de la musique, c'est une vraie passion, et ça m'a permis de supporter pas mal de choses. J'étais pas fait pour être devant, j'étais pas fait pour me montrer. C'est pas le fond de ma nature, vraiment. J'ai appris à le faire, j'ai appris à l'accepter, j'ai appris à vivre bien avec. J'avais pas trop le choix, hein, quand même, non plus.
En tout cas, ce qui est formidable, c'est que dès le 18 octobre, on va pouvoir s'immerger à nouveau dans cet album de la Genèse, baptisé Éden, et qui sort en édition limitée, 3 CD, qui sort donc en coffret remasterisé. Je me suis plongée dedans hier.
Oui, c'est beau. Hein. Enfin, c'est très prétentieux de trouver que ce qu'on a fait est beau, mais j'ai du recul, forcément, une fois que les choses sont faites, qu'elles existent, on peut avoir ce recul-là, et ouais. Je suis fier de ce disque. Bon, la sortie a été un peu compliquée, je dois dire, bien sûr, à cause de toutes ces histoires aussi de rumeurs, qui on me parlait que de ça et pas du tout du disque. Ça me rendait dingue, en fait. Je me disais, mais je viens de passer 2 ans à faire un disque, vraiment, j'ai tout mis, et on parle d'une chose qui ne me concerne pas directement, et dont je ne pouvais pas parler, parce que j'avais des amis qui étaient moins chanceux que moi, et d'abord, j'avais pas envie de donner mon bulletin de santé, je trouvais ça odieux. Et puis ensuite, par solidarité avec des gens qui n'avaient pas eu la même chance que moi, alors que j'avais eu le même type de vie, enfin, une existence assez dissolue de ces années-là. Enfin, mais bon, après les années 90, la fête était finie quand même.
Étienne Dao, en réalité, vous êtes à la fois une idole et un fan. C'est très rare, hein, car souvent les idoles ne sont fans que d'elles-mêmes. Alors, ces exaltations de fans qui vous ont fait produire des disques pour vos idoles à vous, qu'elles s'appellent Debbie Harry, Catherine Deneuve, Sylvie Vartan, Marianne Faithfull, Dany, Lou Doyon, Charlotte Gainsbourg, Jeanne Moreau, ces exaltations de fans, il faut les comprendre comment?
Ce sont des élans. Des élans et des rencontres. J'ai eu la chance d'avoir... de rencontrer les personnes qui m'ont véritablement... construits, qui ont été des images fantasmatiques. C'est une chance d'avoir pu croiser le chemin de personnalités comme ça, parce que là, on a cité des femmes, il y a aussi quelques hommes.
Oui.
Mais bon, peu importe que ce soit des femmes, surtout
des
personnalités.
Mais le spectre est large.
Des artistes. Oui. Je suis très éclectique.
Qu'entre Marianne Faithfull et Sylvie Vartan, le spectre est large.
Oui, c'est vrai. Mais il y a un fil, il y a une cohérence, malgré tout, là-dedans.
La cohérence, c'est...
Je ne sais pas, mais il y a une cohérence pour moi, en tout cas. C'est l'élan. C'est l'envie de partager quelque chose, de faire un disque. Et c'est vrai qu'avec ces femmes, il y a une complémentarité, je dois dire, aussi dans le travail. Aussi, le fait que je sois un homme, que ce soit des femmes, il y a une complémentarité. C'est vrai que j'ai préféré travailler avec les femmes.
Alors, est-ce que je peux dire, par exemple, que...
Même s'il y a des hommes fantastiques, comme
oui.
Jacques Dutronc,
oui.
Jacquenot, Daniel Darc, Dominica, enfin, j'en passe...
Mais vis-à-vis des femmes, je peux dire que vous êtes un petit peu comme Dominique Besnéard avec les actrices, Lui, en fait, c'est les regarder mieux que personne parce qu'il connaît leurs faiblesses. Et vous, vous aimez justement ces artistes féminines parce que vous subodorez toute leur fragilité derrière.
Ah non, pas du tout.
C'est pas du tout ça.
Non, non, c'est pas ça. C'est juste que, voilà, par exemple, Françoise Hardy, qui a été vraiment l'artiste vraiment que j'ai adoré depuis ma plus tendre enfance et que j'aime toujours. Voilà, j'aimais son travail, je l'ai rencontré, on a fait des petites choses ensemble, des duos. Voilà, c'était une logique, en fait, de rencontre. Et puis aussi, souvent, c'était une demande de leur part, de récupérer aussi, ou de, pas de récupérer, mais enfin d'avoir dans leur musique une partie de ce que je fais, enfin de mon style, hein, j'imagine que c'est ça.
Mais alors, avec laquelle de toutes les stars que j'ai citées, la collaboration fut-elle la plus romanesque, la plus intense, la plus magique, ou peut-être la plus difficile?
Alors, chaque... véritablement, c'est pas la langue de bois. Enfin, il y a une personne dont je parlerai pas, avec qui ça s'est très mal passé. Généralement, ça a été vraiment des cadeaux de travailler avec toutes ces artistes. Il y a une expérience qui a été une expérience très particulière, qui est le condamné à mort avec Jeanne Moreau. Et c'était une manière de partager nos univers, moi lui faire partager la musique, elle me faire partager le théâtre, parce qu'on s'est retrouvés sur la scène de l'Odéon, on s'est retrouvés dans le Palais des Papes à Avignon. Donc quand on est un espèce de cousin très éloigné de la pop et qu'on arrive dans ce monde, on peut vous regarder un peu avec beaucoup de suspicion.
Oui.
Et donc c'était un moment d'apprentissage. Quand on fait le Palais des Papes avec Jeanne Moreau à côté de soi et qu'on survit à ça, on peut tout faire. Hein, vraiment, on peut absolument tout faire. Mais c'était marrant parce que, enfin, c'était marrant. C'était très touchant parce que c'est une diva, bien sûr. Ouais. Moi, la lumière, je m'en fous. Véritablement. J'ai pas besoin de lumière pour exister ou pour me sentir bien.
Vous avez un égo très serein.
Oui, j'ai pas ce problème-là. Ça m'a beaucoup aidé dans le travail que j'ai pu faire avec d'autres parce que l'ombre me va. Très très bien. Et j'en ai besoin aussi parfois. Mais Jeanne, au fur et à mesure des représentations et au fur et à mesure de notre travail, a ressenti que ce qui m'importait le plus, au-delà de tout, c'était qu'elle soit bien. Et j'ai senti qu'elle avait saisi cette chose-là.
Ouais.
Et au fur et à mesure des shows qu'on a donnés, ou des spectacles, elle m'a poussé en avant, tous les soirs. Et le dernier soir à Avignon, parce que c'est la dernière représentation qu'on a fait.
Vous étiez sur scène avec elle.
Oui, elle m'a poussé devant, elle s'est mise derrière moi, elle m'a entouré comme ça.
Magnifique.
Il y a des images qui existent de ça.
Ah, c'est magnifique.
Et là, ça me carrément, même d'en parler, j'ai la chair de poule.
Ressemble à quoi votre discothèque?
Une discothèque, elle est très éclectique.
J'imagine.
J'adore la soul.
C'est vrai?
Oui.
Le dernier achat, par exemple, que vous avez fait?
Alors, ce n'est pas un disque de soul, c'est un disque d'un groupe qui s'appelle MGMT. Et il y a une chanson qui s'appelle Hand It Over, que j'écoute en perfusion.
En perfusion, dit-il. Oui. Je vais vous voler la formule. J'adore. Vous avez beaucoup de vinyles. Vous les préférez au CD?
J'ai adoré le CD quand c'est arrivé, parce que ça permettait de ressortir tout le catalogue et d'avoir plein de bonus qu'on n'avait jamais entendus. J'ai toujours été amoureux du vinyle. C'est un support magique pour moi, le vinyle, vraiment. Donc, j'en ai pas énormément. Je ne suis pas un collectionneur, je suis un complétiste. C'est-à-dire qu'en fait, si j'aime un artiste, je veux tout avoir, y compris les choses pas bien.
Parce qu'on m'a raconté que vous étiez capable, les yeux fermés, en fait, de savoir si le son du disque écouté provenait d'un vinyle ou d'un CD, simplement parce que vous savez reconnaître la différence des fréquences. C'est vrai, ça?
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est facile, parce qu'entre un CD et un vinyle, il y a le craquement du vinyle.
Oui, mais il y a, on va dire, si le vinyle vient d'être repressé et qu'il est nickel...
Oui, oui, je l'entends.
Il y a une différence dans le son.
J'ai l'oreille pour ça.
Vous l'avez toujours, ce disque 25 cm, attention là, c'est quand même singulier, ce disque 25 cm que vous avez offert à votre maman en 1965, qui est l'enregistrement du Petit Prince par Gérard Philippe.
Ah non, alors ma mère m'a offert le Petit Prince,
ouais.
Le disque du Petit Prince, je l'ai toujours. Il y a une étiquette avec marqué cadeau de maman Noël 66.
Vous avez parti de l'étiquette?
Non, non. Et par contre...
Il n'est pas en 25 cm.
Si, si, c'est pas un grand album. Enfin, c'est l'intermédiaire entre un 45 tours et un album. Et c'est un petit format. Et j'avais enregistré... à l'époque, il y avait... on voit ça dans le film de Godard, Masculin-Féminin. C'est comme un photomaton. Et on rentre dedans et on enregistre une chanson et on ressort avec un vinyle très épais. Et à l'époque, bon, comme j'étais un petit scout et qu'on chantait les chansons de Hugo Frey, chante Dylan. Et,
oui.
Donc j'avais chanté une chanson d'Hugo Frey et je vais faire ça à ma mère. Et c'est marrant parce que j'ai exactement la même voix, mais en format petit, quoi.
Incroyable. Bon, bah, en tout cas, tout ça, ça nous amène à parler tout naturellement de l'album Pour enfants dont vous avez signé la musique. Album qui paraît avec un livret illustré par Olivier Talec chez Gallimard Jeunesse. C'est le vilain petit canard, le fameux conte d'Andersen, dont vous avez fait vraiment, je vais dire, un conte musical absolument délicieux. Il est adapté et dit par Arnaud Valois. Le disque et son livret sortent le 7 novembre et franchement, c'est une aventure inattendue.
Oui, mais j'ai toujours eu envie de faire un album pour enfants. Je trouve que dans une discographie, un disque pour enfants et un disque de Noël, c'est indispensable. Il me reste le disque de Noël à faire.
Il reste les musiques du film.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, exactement. Mais cet album, c'est aussi la rencontre avec Arnaud Valois. Il m'avait envoyé un MP3 de sophrologie parce qu'en fait, quand il a arrêté avant le succès énorme de 120 battements, il était devenu sophrologue.
Oui.
Et donc il m'a fait un MP3 de sophrologie et sa voix m'apaisait beaucoup parce que pendant la dernière tournée, j'avais beaucoup d'insomnie, j'avais beaucoup de concerts par semaine, 4-5 concerts, et j'étais terrifié à l'idée de ne pas dormir, donc évidemment, quand on a peur de ne pas dormir, on ne dort pas. Et donc sa voix m'apaisait beaucoup et je lui ai proposé, je lui ai dit « mais ta voix est vraiment apaisante pour les enfants, ce serait dément ». Et faisons un album pour enfants. Et
je donc te c'est laisse... vous qui avez initié
oui,
tout
je
ça.
Je laisse le choix. Et il est revenu très vite avec l'idée du vilain petit canard, qui est l'idée absolument parfaite.
Mais oui.
Et qu'il a réadapté avec une jeune femme qui s'appelle Héloïse Chouraki.
Voilà, qui correspond à notre époque, métaphore incroyable, oui. N'est-ce pas? Bon.
Il l'a réadapté aujourd'hui, mais c'est un thème universel, le thème de la norme.
C'est ça.
Parce qu'en fait, dans le conte original, ce qu'ils ont évité avec leur adaptation, c'est, voilà, il devient un cygne, donc il fait partie de la race supérieure, tout va bien.
Mais lui ne devient jamais un cygne et tout va bien.
Oui, il se trouve lui-même. C'est ça la morale du vilain petit canard qui est dans ce disque qu'on a enregistré.
Et qui sort le 7 novembre, donc.
Oui, je crois.
Voilà. Alors, on fait une pause. On a dit musique de film. Hein. Il va falloir y songer, Étienne Davo.
On m'a déjà posé la question. Ouais.
C'est-à-dire des metteurs en scène.
Qu'en fait, oui, c'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir fait sur ce support, en fait, sortir du format chanson, qui est très, qui est un format presque mathématique, de pouvoir travailler en liberté comme ça sur le vilain petit canard et d'illustrer en fonction du moment, ça m'a titillé quand même. Ouais.
Prochaine fois qu'on se parle, je suis sûre qu'on parlera de musique de film. On retrouve tout de suite Étienne Dao.
Soleil contre moi, jolies armes blanches. 86 duel au soleil, Étienne Dao, tiré ton album Pop Satori, sur lequel d'ailleurs on retrouve Tombé pour la France, dont le clip est signé par le réalisateur du fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet.
La vie serait toujours intense si elle avait pour bande-son les chansons d'Étienne Dao, mon invité. Alors, cher Étienne, Jeanne Moreau, qui avait la coquetterie de vous confier parfois qu'elle était immortelle, eh bien, Jeanne Moreau nous a quittés en juillet 2017 et le public ignore que l'actrice a légué l'ensemble de ses biens à un fonds pour la transmission de la culture et l'accès des enfants au théâtre et au cinéma, un fonds dont Jeanne Moreau vous a désigné comme administrateur, mais oui, et comme ambassadeur. C'est une sacrée responsabilité, c'est presque une mission.
Je ne savais pas, en fait, elle a tenté de m'en parler une ou deux fois, et lorsque je lui ai posé la question, elle m'a dit non, c'est pas le moment. Donc, voilà. Je savais qu'elle avait envie que j'aie un œil sur une partie de son patrimoine, de ce qu'elle allait laisser. Et j'ai été contacté par les deux autres personnes de cette fondation, qui est un fonds pour l'instant, et M. Robert Guillaumont, son avocat, et puis Hugues Guabeau. Et enfin, ils m'ont parlé de l'envie de Jeanne de faire partie de ce fonds.
Ouais.
Et au départ, ça m'a fait très peur, parce que si je m'engage dans quelque chose, en fait, j'ai envie de le faire à fond. Je suis très occupé, j'avais peur de ne pas être suffisamment présent.
Administrateur, ça sonne d'une manière un petit peu austère, un peu rigide.
Donc j'ai délimité un petit peu mon territoire à la musique, en fait.
Oui.
Et on se réunit de temps en temps, on essaie de voir ce qu'on peut faire pour faire vivre... vraiment le souvenir de Jeanne, et on gère pas mal de choses, les demandes, mais il y a pas mal de gens qui veulent qu'on subventionne du théâtre ou des choses qu'ils font autour de Jeanne, donc ils nous demandent de l'argent,
oui.
L'argent que génère tout le patrimoine de Jeanne.
Oui.
Et au départ, je ne voulais pas, j'avais peur en fait de ne pas être à la hauteur de la mission, et à la fois le fait qu'elle est la confiance de me confier cette mission, faisait que je ne pouvais pas,
vous dérober.
Ne pas accepter. Voilà.
Bien sûr. Alors, quels sont vos projets actuels pour ce fonds de transmission de la culture à la jeunesse? Vous nous avez dit que vous aviez, en fait, serré les choses autour de la musique.
Oui, j'ai le projet de faire un projet musical avec des gens de la nouvelle génération autour du répertoire de Jeanne. Ça prend du temps, donc j'ai un planning assez chargé là, et puis que je produis l'album de quelqu'un aussi que j'aime beaucoup, qui est Jane Birkin.
Le prochain album de Jeanne,
oui.
C'est vous qui le produisez,
oui.
Formidable.
Donc c'est une aventure vraiment extrêmement excitante, quoi, parce que quand même la barre est très très haute, vraiment. Et
il vous reste peu de temps. Donc.
Il me reste pas beaucoup de temps, mais c'est quelque chose que je vais prendre le temps de le faire, bien sûr.
Alors Étienne Dao, vous dites « Je ne suis le fils de personne, mais peut-être suis-je le frère ou le père de quelques-uns. » Alors qui? Par exemple...
Ah, j'ai dit ça.
Oui, vous avez dit ça.
J'étais sous alors. Je sais pas.
Est-ce que Benjamin Biolay, par exemple, est un héritier d'Étienne Dao?
J'ai probablement défriché le terrain pour des artistes comme lui. Et si c'est le cas, vraiment, je suis très flatté, parce que c'est quand même un artiste exceptionnel. Vraiment. Je vois des familiarités. Je sais qu'il apprécie beaucoup mon travail. Il me l'a dit. Qu'on a eu... On se connaît peu, en fait, mais en fait, on s'est parlé lors d'une interview croisée.
Oui.
Et c'est là où il m'a confié cette chose-là, quoi. J'étais très flatté.
Donc, vous voyez, on avait eu l'idée de vous rapprocher. Donc, voilà. C'est qu'il y a cette complicité musicale.
Oui, je pense
qu'on a
les mêmes fantasmes, en tout cas, ça c'est
les
sûr.
Les mêmes fantasmes.
Ouais.
La musique,
lui
forcément.
Lui aussi a beaucoup travaillé avec des femmes, justement.
Oui.
On a des parcours qui ne sont pas du tout lointains, vraiment.
Elle maintient dans un état de jeunesse, la musique.
Ah oui. Moi, j'ai toujours vraiment l'impression d'être le jeune mec qui débarque de Rennes, hein. Vraiment. Tout est à faire à chaque fois.
Oui, puisqu'en plus, chaque nouveau disque est presque un disque de renaissance, quoi. C'est comme si
ah oui, oui, oui.
On
ah
partait
oui.
d'une page blanche.
Ah oui, vraiment. Ouais. Je ne suis pas du tout rassuré par ce qui pourrait être rassurant, de choses qui se sont bien passées, et de ce qui pourrait être solide.
Étienne Dao est rare en interview. Pourtant, il nous a rejoint cet après-midi et la promenade est belle. Alors à partir du 25 octobre, avec la tournée baptisée Eden, c'est dans un bain de jouvence, justement Étienne Dao, que vous allez vous immerger et nous immerger grâce à 19 concerts exceptionnels, dont un à la Philharmonie de Paris le 11 novembre, un autre salle Pleyel le 23 décembre. Ces concerts, vous les avez imaginés comment ?
Alors d'abord, je vais jouer tous les titres contemporains de cet album, c'est-à-dire cet album, un mini-album qui était sorti avec un groupe qui s'appelle Saint-Étienne,
oui,
juste avant, où ils avaient repris Weekend à Rome en anglais, qui avait été un succès incroyable en Angleterre et en
c'est
Europe,
vrai,
qui s'appelle He's on the Phone.
Et ah, c'est bien d'être un anglophile qui fait des tubes auprès des Anglais. C'est quand même extraordinaire pour un Français.
C'était fantastique parce que de ce côté-là de la Manche, j'étais mort. Et de l'autre côté, j'avais un tube. Je passais à Top of the Pop. C'était irréel. Et d'ailleurs, Saint-Étienne va faire la première partie à la Philharmonie. Donc oui, ça va être génial de se retrouver à ce moment-là. Et voilà.
Saint-Pléiel aussi, c'est incroyable parce que moi, je suis plutôt aller salle Pleyel écouter des artistes classiques,
oui,
et des artistes lyriques, et donc il y a une acoustique absolument extraordinaire. Mmh. Donc chanter de la pop salle Pleyel,
ah oui,
c'est d'un luxe,
c'est hyper prestige. La Philharmonie Pleyel,
oui,
oui. C'est vrai.
En fait, vous n'avez renoncé à rien de ce qui vous faisait rêver à 16 ans.
Alors en fait, c'est très curieux parce qu'en fait je ne vois jamais les obstacles. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je ne les imagine pas, donc les obstacles ne se dressent pas devant moi. Non mais c'est vrai, je pense que c'est une question de projection. Je ne peux pas dire
c'est
ça dans tous les aspects de ma vie.
Comme philosophie de vie.
Ça ne concerne pas tous les aspects de ma vie, mais en tout cas professionnellement, je n'imagine jamais, je n'envisage jamais que les choses ne puissent pas se faire.
On disait tout à l'heure, sombre mais léger, très solaire quand même, Étienne Dao.
Je viens du soleil.
Mais oui, vous venez du soleil. Alors en même temps,
et de la pluie aussi.
Voilà,
la Bretagne,
l'Andalousie, la Bretagne,
l'Angleterre,
et puis l'Angleterre,
ouais,
et puis l'Algérie. Donc voilà, ça fait beaucoup de latitude.
Tout ça, c'est en moi. Ça fait partie de mes paradoxes. Mais tout le monde est paradoxal. Je pense qu'on a tous nos facettes.
Vous vouliez une vie belle.
Oui.
Elle n'aurait pas été belle sans la musique.
Non. Alors ouais, je pense que c'est inenvisageable. La musique m'a sauvé véritablement. J'étais un jeune, pas délinquant, mais j'avais un petit potentiel quand même.
Bon, un petit potentiel pour la délinquance, un gros potentiel pour la musique.
Mais la culture m'a véritablement sauvé. C'est vrai qu'on ne me voit jamais comme cette personne-là. Mais c'est vrai que je suis un petit immigré arrivé à 8 ans en France. Et que la musique et la culture m'ont sauvé véritablement. Ça m'a ouvert un horizon et un futur que je n'aurais jamais eu.
Alors elle a vraiment bien fait, Jeanne Moreau, de vous choisir, n'est-ce pas ? Comme ambassadeur du fonds qu'elle a créé pour la transmission de la culture auprès des jeunes. On attend les prochaines musiques de films, parce qu'il y a un vrai tropisme avec le cinéma. Vous avez quand même des clips qui ont été réalisés par Michel Gondry, par Jean-Pierre Jeunet.
Exactement.
Vous
ne
nous avez pas dit qui sont les cinéastes qui rêvent d'avoir votre musique posée sur leurs images. On le saura ou pas ?
Je vous le dirai quand ça se fera.
La prochaine fois, alors.
La prochaine fois, promis.
Allez, on prend rendez-vous. Merci infiniment, Étienne
Merci Dao. Beaucoup à vous. C'était un très bon moment.
Je vous embrasse, à bientôt.
Merci, moi aussi.